L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Alléluia, 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 alléluia.
Le Seigneur soit avec vous
et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent : Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? Jésus leur répondit : Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors : Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit : L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent alors : Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit : Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors : Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit : Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu.
Mange à toi, Seigneur, j'ai connu tout. Le texte de l'Exode nous raconte donc ces péripéties du désert. Et ça nous fait sourire un petit peu quand on voit ces Hébreux qui, ayant traversé la mer Rouge et vu s'éloigner les Égyptiens pour toujours, regrettent l'Égypte avec les fameuses marmites de viande. C'est vrai qu'au désert, la viande, elle est plutôt rare, et même le reste, puisqu'il arrivera plusieurs fois qu'on manquera d'eau. Et pourtant, l'eau est absolument nécessaire pour qu'on puisse conserver la vie. Il faut se rappeler que la Bible nous donne le chiffre de 600 000 personnes sorties d'Égypte. 600 000, c'est une grosse ville, chez nous en Europe, ou dans le monde déjà. Et en fait, 40 000 seulement sont entrés dans la terre promise. Si vous savez faire des comptes, ça représente à peu près un peu plus de 6%, presque rien. C'est donc une petite minorité qui va repeupler ce qu'on appelle la terre d'Israël, c'est-à-dire la Judée, la Samarie et au nord la Galilée. Et quand ces Hébreux protestent en disant « on n'a rien à manger », Moïse leur dit « voilà, le Seigneur va vous donner du pain ». c'est cette manne, une espèce de givre, le texte le dit, qui ne se conservait pas, qui fondait dès que le soleil était un peu chaud. Et quand on prenait ça très tôt, on réduisait ça en mouture, en farine, on faisait un pain qui permettait quand même de survivre. La manne ne tombait pas le samedi, jour du Seigneur à l'époque. Et il en tombait le double la veille, elle se conservait quand même 48 heures. Et c'est une image, la manne. Jésus le reprend, cette image, en disant que vous cherchez le pain, parce que vous avez vu la multiplication des pains, vous cherchez le pain matériel, et en fait, c'est le Seigneur vous donne le pain du ciel. Et je recite une autre parole de l'Évangile, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Avec le mot « pain », on couvre tous nos besoins matériels, gagner son pain. On dit dans notre Père, « Donne-nous notre pain quotidien. » Voilà. Et ça, c'est le plan physique, matériel, corporel. Il faut avoir ce pain-là quand même, autrement c'est la fin dans le monde. Et puis, il faut avoir aussi, aller au-delà, pour aller chercher cet autre pain qui est totalement différent. C'est à la fois l'Eucharistie, et c'est aussi cette présence du Christ qui se fait déjà par l'Eucharistie, mais aussi par cette habitation du Christ dans chacun de nous, habitation commencée au baptême, qui doit se cultiver, qui doit se développer, qui doit faire de nous des interlocuteurs permanents avec le Seigneur par l'intermédiaire du Christ. Il est venu dans ce monde prendre notre nature humaine pour que nous puissions entrer dans la nature divine. Et à chaque offertoire, on répète ça. Ça passe un peu comme les choses sont dites tous les jours et on n'y prête plus attention. Donc, nous avons à cultiver cette vie-là pour qu'elle se développe en nous et qu'elle demeure. Et ça se fait par tous les événements du jour. Chaque jour, il y a des choses. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, j'ai été lire le tableau qui est là-bas avec la liste des évêques. Bon, j'ai été le lire, voir qui il était. Je n'ai pas pu le lire, mais je le connais par cœur ou presque. Et j'ai dit, il n'y a pas de doute, il y en manque un. Ça me fait penser à un certain film, vous savez, où il y a le lit de Funès qui est là dans son lit, et puis il montant qui arrive avec les pièces dans une gamelle, les pièces d'or, l'autre il écoute, puis d'un coup il en manque une. Et bien là, les évêques de Chalon, il en manque un. Qui c'est? Eh bien c'est un pauvre malheureux qu'on a volontairement oublié. Il s'appelle Étienne de Lastic. Monsieur Choiseul est mort le 12 septembre 1763, il était enterré ici. À la Révolution, la tombe a été fichue en l'air, devant les marches du siège épiscopal, ici-là. Et on a nommé, au 15 octobre suivant, on a nommé un évêque, qui était évêque de Saint-Bertrand de Comminges. Il a accepté la nomination, il a notifié à son supérieur, l'archevêque de Toulouse, il a fait ses bagages, il est parti en voiture pour Paris, il est arrivé à Paris vers le 20 novembre, il est tombé malade et il est entré dans le séminaire Saint-Sulpice, près de l'église Saint-Sulpice actuelle, ça existe toujours ce bâtiment, et il a donné sa démission d'évêque de Châlons. Il est mort et enterré à Paris. Alors évidemment, il n'est jamais arrivé dans cette cathédrale. Mais il a accepté, il a été évêque de Châlons, effectivement, 2 mois. C'est pas beaucoup. Le record, je crois que c'est comme Clause, 50 ans. C'est de 1574 à 1624, faites l'addition, 26 et 24, ça fait 50. Et la famille Clause, avec les deux autres, c'est encore 16 ans pour Henri Clause, et puis pour le Clause de Marchaumont, 2 ans. Alors, ajoutez les 18 ans, ça fait 68 ans que la famille Clause a été évêque de Châlons. Alors l'autre, il était deux mois. Ben oui, vous me direz, ben, il n'est jamais arrivé à Châlons. Mais Saint François de Sales a été évêque de Genève. Il n'a jamais mis le pied à Genève en tant qu'évêque. Jamais, jamais, jamais. Il n'a jamais pris possession de la cathédrale Saint-Pierre de Genève, qui était devenue, qui est toujours, le temple protestant majeur à Venise, à Genève. Et pourtant, on l'appelait Monsieur Genève. Il a résidé à Annecy, où il est mort et enterré, avec Saint-Jean de Chantal. Alors, voyez-vous, je prêche comme ça pour les gens qu'on a mis de côté. Bon, cet homme-là, il a accepté de grand cœur de venir ici, et certainement qu'il a souffert de ne pas réussir son voyage. Et il a donné sa vie quand même pour notre diocèse. Et ça, je pense, c'est des choses qu'il faut quand même de temps en temps rappeler, parce que nous vivons du passé, et en vivant du passé, on fabrique le présent et on prépare l'avenir.